L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Environ 150 agriculteurs venus de toute l'Europe se sont réunis mardi 21 octobre 2025 sur le parvis du Parlement européen de Strasbourg. 21 octobre, jour de session parlementaire. Thomas Lux, des jeunes agriculteurs du Bas-Rhin.
Aujourd'hui, on demande à ce que l'Europe ait une politique agricole forte. On voit que les contraintes réglementaires augmentent alors que les budgets baissent. Faut assumer la réglementation qu'on nous demande et avoir les budgets en conséquence.
On sent une colère qui monte depuis quelques années. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où pour vous, c'est plus tenable.
Sur d'autres filières qui ne sont pas sur des cours mondiaux, on a la bataille avec la grande distribution qui est compliquée. On a les charges qui augmentent drastiquement, vraiment. On a un effet ciseau sur nos exploitations. Et en plus, on entend que les soutiens de l'État, les soutiens politiques sont en baisse. Enfin, en tout cas, il y a un projet qui est en baisse. Donc on se mobilise tout de suite, dès le début des négociations, pour montrer qu'on est là, pour montrer qu'on a besoin d'une politique agricole ambitieuse.
Agriculteur, c'est un métier passion. Aujourd'hui, on peut vivre justement de ce métier passion.
Alors c'est un métier passion, mais effectivement, par contre, on ne vit pas de la passion, on a bien de revenus. Si on est tous là, c'est qu'aujourd'hui, on en vit encore, mais les revenus baissent. Si on veut continuer à avoir une agriculture aussi performante, je rappelle, l'agriculture française et européenne, c'est une des agricultures les plus vertueuses si on compare à la déforestation en Amérique du Sud, au feedlock américain. Voilà, nous, on a une belle agriculture. En France, on a un modèle agricole familial. L'agriculture industrielle n'existe pas chez nous. Et si on veut garder ça, ben, c'est simple. Il faut que les revenus restent assez conséquents pour que nos exploitations, qui ne peuvent pas faire d'économie d'échelle, continuent de persister. Au sujet du Mercosur, on peut parler de concurrence déloyale. On peut aussi parler d'importations qui sont hors sujet, puisque aujourd'hui on importe des produits qu'on n'a pas le droit de fabriquer en Europe. Alors je dis fabriquer, mais ça peut ou de la viande qu'on n'a pas le droit d'élever, ou des cultures qu'on n'a pas le droit de cultiver, de façon qui sont interdites en Europe. Voilà. C'est l'Europe qui a le pouvoir politique et commercial, qui a l'exclusivité commerciale, qui aujourd'hui nous donne des messages complètement incohérents. On importe quelque chose qu'on ne veut pas pour que les Européens puissent acheter pas cher et nous on demande de faire une agriculture premium qui n'a pas de clients.
Aujourd'hui, est-ce que ça pêche au niveau de la communication? Par exemple, la loi Duplon qui a été très mal entendue par nombre de citoyens.
Ça pêche au niveau de la communication. On a du mal à se faire comprendre. Il y a eu des lobbying face à nous qui ont fait comprendre que cette loi Duplon, c'est une loi pour l'utilisation de plus de pesticides. C'est une loi pour un droit à polluer. Et alors que pas du tout, c'est juste... nous, on a demandé à être ce qu'on disait avant. On veut juste être sur le même pied d'égalité que nos concurrents. Si on nous met sur un marché, alors on veut avoir les mêmes armes. Si on veut nous imposer des façons de faire, alors on ferme le marché et on voit ça entre nous.
Comment est-ce que les citoyens peuvent aujourd'hui vous soutenir, vous apporter de l'aide, au moins logistique, c'est-à-dire signer des pétitions? Vous avez des choses, vous, en place pour que les citoyens, parce que tout le monde, et pour les agriculteurs, et de Bas-Rhin, et d'Alsace, et de France, et d'Europe, mais comment est-ce qu'on peut vous soutenir?
La première façon, alors on a souvent utilisé le mot consommateur il y a quelques années, bah la première façon c'est de soutenir notre agriculture, c'est d'acheter nos produits et pas des produits importés. Et après, bah bien sûr, tout moyen de faire écho à nos volontés et à nos mobilisations et à tout ce qu'on aimerait, répéter une pétition sur les médias sociaux, en parler à table, à Noël, tous les moyens sont bons pour faire écho à nos demandes. Ouais. Aujourd'hui, on est là, je disais, on est là pour demander à l'Europe d'avoir une agriculture ambitieuse. Et vous voyez, on y croit encore, on est nombreux, on est tous des entrepreneurs. Et pourtant, on prend notre temps, on ne fait pas le travail pendant ce temps-là. On le fera sûrement cette nuit pour compenser. Et ben, c'est bien qu'il y ait une volonté, c'est bien qu'il y ait un besoin et c'est bien qu'on a envie que ça avance.
David Cormand, député européen écologiste, aux côtés des agriculteurs.
Ah ben non seulement on entend ces revendications là, qui portent sur le budget d'Union européenne, pour ce qui concernera la politique agricole commune, mais on est au combat. On est au combat puisqu'aujourd'hui, il y a un projet de budget pour après 2027, entre 2028 et 2034, où la Commission propose ni plus ni moins que de tuer la spécificité de ce qu'était la politique agricole commune. Quelle était cette spécificité? D'abord, c'est qu'elle était séparée en deux piliers, un pilier d'aide à la production et un pilier de développement rural, qui aidait les territoires ruraux avec leur spécificité d'activité économique autour de l'agriculture. Tout ça, c'est anéanti et fusionné dans un seul pilier. Et en plus de ça, ces politiques agricoles vont être noyés dans d'autres politiques, sur le Fonds social européen, sur les programmes LIFE, sur la biodiversité, sur tout un tas de trucs qui vont faire un gros paquet qui vont être découpés en 27, un par pays. Et donc il n'y aura plus de vision européenne, il y aura une nationalisation, une technocratisation du budget européen, et ça, c'est pas démocratique, c'est pas fédéraliste, et ça se fait au détriment notamment de la capacité d'action européenne sur l'agriculture.
Et cette capacité, justement, elle met pas aujourd'hui en exergue la volonté des agriculteurs français d'être plus autonomes, de gagner justement en autonomie.
La question de l'autonomie des agriculteurs, c'est leur donner du pouvoir dans la chaîne de valeur. Ça, c'est un peu un autre débat, mais qui est lié à la politique agricole commune. Aujourd'hui, les agricultrices et les agriculteurs, ils sont prisonniers, quelque part, d'une tenaille de fer que sont les géants de l'agrochimie, de l'agro-industrie, d'une part, et les géants de l'agroalimentaire, qui imposent leur prix d'achat. Et ça, c'est un autre enjeu décisif. Et c'est ça que devrait faire l'Union européenne, plutôt que de réduire les aides de la PAC et de les nationaliser. C'est comment on redonne du pouvoir aux agriculteurs dans la chaîne de valeur alimentaire. Aujourd'hui, c'est les grands volets de cette chaîne de valeur. Il y a tout un tas d'intermédiaires et de secteurs dans l'alimentation qui se gabent. Et ceux qui sont la vache à lait, c'est le cas de le dire, dans ce modèle, c'est les agriculteurs. Donc ça, c'est pas possible. Si on veut plus d'agriculteurs et plus d'agricultrices, si on veut des territoires ruraux avec une activité agricole viable, il faut sanctuariser le revenu agricole, ce que devait aider à faire la PAC. Et donc, si vous voulez, il y a une prise en sandwich où non seulement on va réduire l'aide de la PAC aux agriculteurs, mais en plus, on ne sanctuarise pas leur rapport de force dans une chaîne de valeur où ils sont aujourd'hui défavorisés.
Gérard Lorbert, le président de la FDSEA du Bas-Rhin.
Déjà, c'est une manifestation européenne. C'est le COPACO-GK, c'est l'organisation européenne de l'ensemble des syndicats, de l'ensemble des pays au niveau agricole. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu parce que autant on était convaincu que la souveraineté alimentaire était un enjeu primordial pour l'Europe. Et on s'est dit que le budget européen au niveau agricole, qu'on allait mettre les moyens. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une volonté de baisser de 20% les crédits alloués à l'agriculture. Et donc là, on ne peut pas du tout être d'accord. Parce que le modèle agricole européen tel qu'il est, sur certains sujets, on n'est pas compétitif par rapport à d'autres territoires au monde. Mais je pense que la nourriture vaut bien le fait d'en avoir localement et d'être résilient au niveau européen et d'être en souveraineté par rapport à ça. Et je pense que ce qu'on a vécu par le passé, de par le Covid, ou ce qui est en train de se vivre encore dans le Grand Est, si vous voyez ce que je veux dire, je pense que l'Europe devrait être un peu plus ambitieuse sur ce sujet. J'ai cru comprendre qu'elle était ambitieuse sur la défense, qu'elle n'a jamais été, et au détriment peut-être de l'agriculture, ce qui, à notre sens, est une erreur.
À terme, quels sont les risques ?
Les risques aujourd'hui, c'est clairement, vous savez, si je me prends ma casquette de français, parce que je suis d'abord, avant tout français, la balance commerciale française, elle va être négative au niveau agricole. Alors qu'on était un gros exportateur agricole, en fait, à terme, on va être dépendant d'autres. Ça veut dire qu'on va être dépendant, si on veut de la viande, demain, si on laisse faire tout, on va faire de la viande en Ukraine, on va en faire dans le Mercosur, et puis tout ça, on laisse faire, et puis nous, notre production, on la laisse dépérir, et ça veut dire qu'on va être dépendant. Alors, on a déjà perdu l'industrie, déjà aujourd'hui, si on arrête d'importer des vêtements, je pense qu'on n'est pas très bien habillé, demain, peut-être que notre assiette, elle sera dépendante des autres. Et le jour où il y aura un accident climatique quelque part, parce que là, aujourd'hui, c'est plutôt l'euphorie. Tous les marchés sont saturés, c'est vrai. Ça produit un peu bien partout. Sauf qu'une année où on aura des accidents climatiques, et ça viendra, mais je ne le souhaite pas, mais ça viendra, il y aura un peu moins de choses. Et puis, de toute façon, le marché mondial, c'est souvent un marché des invendus. Donc, tu seras dépendant à ce que les autres veuillent bien te donner parce qu'ils n'en ont pas besoin.
Aujourd'hui, petite colère, grosse colère ?
Grosse colère quand même, parce que quand je vois qu'aujourd'hui, si on ne donne pas envie, s'il n'y a pas un signe qui est donné dans le fait de dire « moi j'ai fait partie de cette génération », on nous disait « vous êtes important, vous produisez de la nourriture, on a besoin de vous ». Et aujourd'hui, le signe, c'est plutôt de dire « bon, finalement, si vous n'êtes pas là, c'est les Ukrainiens qui feront, c'est l'Amérique du Sud qui fera ». C'est pas très motivant pour rentrer dans ce métier. Et on sait très bien que lorsqu'on n'investit plus dans un métier, demain, il y aura un vrai problème. Et là, je suis inquiet pour les générations futures, par rapport au renouvellement de génération, par rapport à la, qui va produire demain. Parce qu'il faudra toujours de la production, quoi qu'on dise.
On va revenir à un plan plus personnel. Vous avez une exploitation, vous avez quelqu'un qui travaille avec vous, des enfants qui sont rentrés dans ce métier ?
J'ai mon fils qui a 27 ans. Et qui est rentré dans le métier, qui s'est installé, qui y croit encore. Alors moi, j'y ai toujours cru. Ça a été toute ma vie, ce métier-là. Et j'y crois encore. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'ai envie de me battre. Mais quand tu vois les réponses d'en face, aujourd'hui, on est dans un monde de doux rêveurs. On est déconnecté de la réalité. Moi, je fais partie de ces générations qui ont encore connu d'anciens, qui avaient passé la guerre et qui se racontaient des histoires. Et je pense que plus on avance, y compris dans nos décideurs, ils ont peut-être oublié un certain nombre de choses, parce qu'en fait, ils sont nés avec la cuillère d'argent.
Et là, c'est une question rentre presque dans la sphère privée. Vous vivez bien de votre métier aujourd'hui ?
J'ai fait toute ma carrière, et je n'ai pas fini encore, j'ai fait toute ma carrière dans ce métier. Il y a eu des hauts et des bas. Mais c'est vrai que si on compare, s'il n'y a pas un minimum de passion, si on fait ça que pour l'argent, comparé à d'autres métiers, j'aurais dû faire un autre métier sûrement. Parce que j'aurais sans doute gagné beaucoup plus d'argent. Après, si je vis bien, c'est parce que j'aime mon métier, mais... L'amour du métier ne suffit pas toujours, il faut quand même une rémunération en contrepartie. Et la rémunération aujourd'hui, elle est souvent défaillante parce qu'on considère que la nourriture ne doit rien coûter. Et en fait, la nourriture doit être abordable pour tout le monde. Et c'est ça la philosophie, ce qui se passe là-dedans. Alors que la nourriture doit être abordable, oui, mais elle doit être produite ici. Et c'est pour ça qu'il y a eu du subventionnement. Parce qu'on voulait une nourriture qui soit pas chère, et en contrepartie, on compensait avec du subventionnement pour permettre à ce que la nourriture soit produite localement. Et aujourd'hui, on a juste l'impression qu'on abandonne la production locale, et on se dit, de toute façon, c'est le marché, on achètera moins cher ailleurs, point terminé, barre, quoi. Est-ce que je vis bien ? Je vis dans mon métier parce que j'aime mon métier, parce qu'il y a des satisfactions dans mon métier. En fait, on a un mélange entre métier et entre passion et entre hobby, mais la jeune génération sera plus exigeante encore que l'a été l'ancienne. Et ça, il faut que la société ne se trompe pas.
Vous êtes solidaire entre vous, entre agriculteurs. Vous êtes exploitant de quoi ?
On produit du lait, on produit de la céréale, on est très diversifié, on a une exploitation de polyculture et élevage. On fait partie d'un groupe, nous, on est dans un groupe de méthaniseurs, à plusieurs agriculteurs. Il existe une solidarité. Après, les agriculteurs peuvent être concurrents sur certains sujets entre eux, mais il existe une solidarité agricole qui est réelle. Et c'est aussi ça, une des forces de ce métier aussi.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.